Monsieur Denis, nous sommes à votre domicile et vous avez accepté de nous donner une interview. Nous sommes le lundi 3 mai 2010. Vous êtes né le 16 mai 1915, donc vous avez 95 ans. Et on va commencer peut-être par votre enfance, vos parents, si vous pouvez un petit peu nous parler de votre milieu familial.
Mon milieu familial, oui, a été curieusement fabriqué. Il est assez compliqué parce que mon père était peintre et c'était un ami de Renoir. Mais mon père avait ses antécédents qui étaient dans la région de Bordeaux. Et là, mon père a rencontré celle qui serait ma mère. Et ils sont venus tous les deux avec ma mère et Renoir à Saint-Quentin, dans le nord. Et là, ce qui est arrivé, c'est que les Allemands, oui, les Allemands, ont envahi la France à ce moment-là.
Oui, c'était la Première Guerre mondiale.
Première Guerre mondiale. Et mon père avait. On était à Saint-Quentin, et les Allemands sont arrivés et nous ont coupés de Paris. Et à ce moment-là, je venais de naître, moi. Et à ce moment-là, ils nous ont fait déporter vers la Belgique. On est resté un an, là. Puis on a été déporté en Allemagne. On est resté 2 ans en Allemagne. Puis on a été déporté en Suisse. On est encore resté un an en Suisse. Et on est revenu 4 ans après, à Saint-Quentin, quand la guerre était finie. Voir. On avait caché tous les tableaux de mon père dans le toit de la maison. Et quand on est arrivé là, eh bien, la maison n'y était plus. Elle était complètement démolie. Et donc les tableaux de mon père, on ne les a pas retrouvés non plus. À ce moment-là, moi après, j'étais voir des marchands de tableaux, puis j'ai retrouvé qu'il y avait certaines de ces toiles qui étaient là. Mais lui, à ce moment-là, il a perdu toutes ces toiles-là. Et la maison. En dommage de cette maison qu'on avait perdue, on a donné une maison à occuper. C'était une vieille ferme sur le cap d'Antibes, au bord de la Méditerranée, là-bas. Sur le cap d'Antibes, on a eu cette maison. Cette maison, sur le cap d'Antibes, c'est encore une maison où mes enfants vont en vacances pendant l'été. Parce que c'est sur le cap d'Antibes, on peut aller se baigner, c'est agréable. Et cette maison était une vieille ferme qui avait des oliviers qu'on a plantés. Et moi, quand j'étais. Alors moi, je suis arrivé là-bas quand j'étais tout petit, enfin, quand j'avais. Oui, c'était juste après la
Oui,
guerre, quoi.
3-4 ans.
Oui, c'est ça, 3-4 ans. Alors. Eh bien, je me suis occupé là-bas pendant un moment, puis quand j'ai grandi, eh bien, je me suis occupé de la maison, de faire tailler les arbres, ramasser les olives pour faire de l'huile, et puis de faire tout ça. Et cette maison est encore très agréable, et nous y allons. Et mes enfants, surtout, ils vont surtout en vacances, encore maintenant.
Vous alliez à l'école donc à Antibes?
Donc j'allais à l'école à Antibes, et à Antibes, j'étais à l'école à Nice en réalité. Parce qu'à Antibes, il n'y avait pas d'école, enfin, à ce moment-là. Et puis après, j'ai passé le baccalauréat. Enfin, c'était assez compliqué. Enfin, j'ai passé le baccalauréat. Et après, je ne savais pas ce que j'allais préparer comme futur. Alors, je devais aller à Nice. Il y avait une taupe à Nice. Et c'est là que j'allais pour préparer après ce que je ferais. Et malheureusement, à Nice, bon, alors moi je suis resté là, j'ai fait ce qu'il fallait comme étude. Et puis, c'était très, très, très compliqué. Je ne vais pas vous raconter tout ça parce que vraiment, je n'en sortais pas. Mais enfin, ce que je sais, c'est que je suis arrivé là et puis finalement, j'ai dû présenter le baccalauréat ensuite présenter à des grandes écoles ou quelque chose comme ça.
Des concours.
Des concours, oui. Et à Nice, dans l'école de Nice où j'étais, on m'interdisait de me présenter à n'importe, ni à l'école polytechnique, ni à l'école normale, parce qu'on n'avait jamais eu de gens reçus là-bas, qui partaient de Nice.
Oui.
Par conséquent, bon, bah, je vois à l'école des arts et métiers, des choses comme ça, où ça, c'était possible. Et puis quand, j'ai monté en classe, et puis je me suis aperçu que, je pouvais très bien me présenter où je voulais, mais je n'avais pas besoin de le dire au principal du collège. Et puis c'est ce que j'ai fait. Et j'ai présenté Polytechnique et l'école normale. Et quand j'étais admissible à l'école polytechnique, bah, j'ai aussi présenté l'école normale pour voir. Et à ce moment-là, j'avais été reçu à l'école polytechnique, j'ai téléphoné à mon père pour lui dire que j'étais reçu à l'école polytechnique. Alors j'ai entendu qu'il s'est gratté la gorge, qu'il m'a dit, qu'est-ce que tu me dis? Tu es reçu à l'école polytechnique? Oh, mais c'est un gars. Non, ne rentre pas là. On y porte un chapeau vraiment trop ridicule. Trop, trop ridicule. Oh, écoute. Oui, tu sais bien quand tu m'accompagnes pour que je fasse des peintres, mon père. Je l'accompagnais quand il allait peindre et je lui portais ses appareils là pour qu'il puisse peindre. Et il me dit, et puis je lui lisais pendant qu'il peignait des choses. Il y avait Rabelais et Montaigne. Je lui lisais, ça qui l'intéressait. Alors lui, je lui ai dit que j'étais reçu à l'école polytechnique, il me dit, on ne me dit pas ça. On y porte un galurin trop ridicule, parce que tu sais, si je veux peindre une église, nous allons nous asseoir tous les deux sur le trottoir d'en face, et je commence à peindre, et bon, on est assis sur le trottoir, et à ce moment-là, tu te rends compte, avec ton chapeau, c'est pas possible, ça ne sera pas. Alors, j'ai dit, écoute, je suis admissible à l'école normale, peut-être que je serai aussi. Ah oui, rentre à l'école normale, là tu auras ton salaire d'instituteur à la fin du mois, et on aura un peu d'argent à la maison, ce sera très bien. Moi j'étais à ce moment-là à Paris, et j'ai téléphoné, lui il était en type. Et alors, bon, tout ça étant fait, j'ai été reçu aussi à l'école normale, donc je suis resté à l'école normale, et puis. Ça s'est bien passé. Voilà comment était, ma façon dont je me suis préparé, si vous voulez.
Et quel type d'éducation vous avez reçu de vos parents? Votre père était peintre, vous l'avez dit, il n'était pas du tout conformiste, manifestement, puisque le chapeau de l'école polytechnique avait peu d'attrait pour lui. Comment c'était cette éducation que vous avez reçue?
Ah, mon éducation. Oh, à la maison, c'était très compliqué, la maison qu'il nous avait donnée, justement. Et mon père a fait construire, à partir de cette maison extrêmement compliquée, un endroit où il pouvait faire apprendre la peinture à des élèves. Et cet endroit était... Pour moi, j'allais à l'école, j'allais au collège d'Antibes, et bon, ben, j'y allais en vélo, et puis j'allais au collège d'Antibes. Et ça s'est passé comme ça, quoi. Mais finalement, je me suis aperçu que je pouvais très bien m'inscrire à n'importe quelle, aller aussi bien à l'école polytechnique et à l'école normale, et que... Donc je m'étais inscrit comme ça, et puis ça a très bien marché, quoi. Et j'étais reçu au DE. Et très bonne place à l'école polytechnique, parce que j'avais deux grandeurs qui m'avaient bien fait me situer bien parmi les autres. J'avais eu la meilleure note en dessin de tous les autres. J'ai perdu la mémoire.
C'était la mécanique, peut-être?
Pardon?
C'était des dessins de mécanique ou
non, ces dessins, c'était le portrait d'un gars qui était en Allemagne à cette époque. Mais il y avait son portrait près de...
On vous demandait, pour entrer à l'école polytechnique, de faire un portrait.
Oui, de
parmi les épreuves.
Et j'avais une très bonne note. Je vous dis, une des meilleures notes pour faire ce portrait.
Vous aviez suivi des cours de votre père?
Non. Papa, souvent, je lui ai dit, pourquoi tu ne m'as jamais appris à faire du dessin? Il m'a dit, oh, si tu avais voulu dessiner, tu aurais dessiné. Bon, tout ce que tu faisais, tu faisais assez pour moi, ça va, ça allait comme ça. Mais autrement, si tu avais voulu peindre, tu aurais peint. Mais bon, il y a autre chose. Il y a peu de choses. Et effectivement, moi, donc, étant reçu à l'école polytechnique, lui, il m'a dit non, comme je viens de vous le dire. Et puis, finalement, j'étais reçu à l'école normale. Alors là, je suis rentré à l'école normale. Et à ce moment-là, l'école normale était dirigée par...
Combes, peut-être?
Non.
Non, Rocard.
Oui,
Yves
Rocard. Par Rocard, oui. Le père de celui qu'on connaît. C'est le père qui était à ce moment-là directeur de l'école normale. Oui.
Yves Rocard, oui.
Et là, il est... je suis rentré à l'école normale et puis ça a très bien été. Et c'est là où j'ai rencontré Steinberg et Blum. Et...
Donc ça, c'était juste après la guerre.
C'était juste après la guerre, oui.
Vous aviez déjà des directions de recherche particulières?
Oui, parce que à l'école normale, à ce moment-là, on était un peu en guerre, nous, enfin, il y a eu des tas d'ennuis avec les Allemands et des trucs comme ça. Mais en Amérique, ils avaient découvert la radioastronomie. Alors, on m'a envoyé en Amérique pour voir où ils en étaient, les Américains, dans ce domaine de la radioastronomie. C'est comme ça que j'étais dans le nord de l'Amérique. Et là, j'étais jusqu'au Canada.
Vous entrez à l'école normale supérieure,
oui.
Qui était alors dirigée par Yves Rocard.
Yves Rocard, oui.
Comment ça se passe? Vous y trouvez des camarades, d'autres étudiants?
Oui, alors, oui, alors, bien, à ce moment-là, quand je suis à l'école normale, je trouve Yves Rocard, qui était directeur à ce moment-là de l'école normale, et qui me fait dire que qui me dit qu'il serait bien content de venir avec qu'il m'entraîne avec lui. On va un peu discuter. Et il trouve qu'il a un fils, un jeune imbécile, qui l'ennuie tout le temps. Et il m'amène avec lui un peu à l'extérieur, là, on va. Et là, il me dit, voilà, je me suis installé là, mais c'est parce que je voudrais qu'on sache qu'est-ce qui envoie les choses dans l'espace. Alors, bon, enfin, je vois, il était là dans une ville qui est entre Paris et la Manche, je ne sais pas où, on était. Mais je vois qu'il est en train de signer des papiers. Et il me dit, c'est mon idiot de fils là qui me fait signer des papiers. Là, vous voyez, alors il signait, il remplissait des... Il écrivait le nom des gens qu'elle envoyait les papiers. Il dit, c'est mon fils qui fait ça, ça ne sert à rien, je suis bien forcé de le faire. Mais alors lui, il voulait que j'installe un système peut-être pour détecter des lanceurs que pourraient lancer les Russes à cette époque. Et... Bon, et puis finalement, finalement, on en est resté là, mais justement, ils m'ont envoyé en Amérique pour voir un petit peu, parce que les Américains, ils n'étaient pas dans la guerre, alors j'ai été là-bas, en Amérique, et là-bas, en Amérique, j'ai vu des gens qui commençaient à travailler la radioastronomie, justement. Et donc, ça m'a fait en Amérique, je suis revenu, parce que l'Amérique, c'était pas bien extraordinaire non plus. Ils n'étaient pas encore bien installés en Amérique. Et je pense que... Mais moi, ça m'a fait faire des voyages que je ne regrette pas, d'ailleurs. Et c'est très intéressant à faire. Et Rocard avait installé à l'école normale un miroir qui faisait la radioastronomie à l'école normale.
Yves Rocard vous envoie aux États-Unis, vous avez envoyé seul voir oui. Ce que les Américains faisaient en radioastronomie?
Oui. Alors j'étais en Amérique, c'est drôle l'Amérique parce qu'ils n'étaient pas du tout organisés. Ils n'étaient pas encore organisés, ils avaient presque le Nord se battait contre le Sud, parce que le Sud, il voulait encore que toutes les Noirs soient considérés comme des esclaves. Et au Nord, ils ne voulaient plus ça. Et donc, il y avait une séparation nette entre le Sud de l'Amérique et le Nord. Un peu impressionné, mais enfin bon. Mais finalement, alors j'étais en Amérique, j'ai un peu voyagé un peu partout. Et
vous étiez accueilli comment?
Oh bien, très bien, très bien, oui. Oui.
Il n'y avait pas de secret militaire dans le domaine de la radio?
Non, mais eux, ils étaient dans un état bizarre. C'est-à-dire que entre le Nord et les pays de l'Amérique du Nord, toujours, enfin, tout était... L'Amérique, c'est le nord de l'Amérique, hein, c'est le nord de... Et dans cette Amérique du Nord, elle était divisée en deux. Il y avait les gens du Nord qui ne voulaient pas que les considérer qu'ils avaient encore des esclaves, et les gens du Sud, du Sud de l'Amérique du Nord, qui voulaient au contraire avoir des gens qui pouvaient considérer comme des esclaves.
C'est l'époque du combat pour les droits civiques.
Ah oui, c'est probablement ça, oui, c'est ça.
Vous êtes resté combien de temps aux États-Unis, à peu près?
À peu près 8 jours.
C'était une mission brève.
Une mission brève, Oui, parce que j'étais voir ce type qui avait découvert la radioastronomie en Amérique et continuait.
Quand vous rentrez des États-Unis, vous travaillez sur la radioastronomie. Yves Rocard avait deux casquettes, si je peux dire. Il était directeur d'un laboratoire à l'école normale, mais il était aussi directeur du service scientifique de la marine.
Oui, probablement, oui, c'est ça. En tous les cas, il était directeur de l'école normale et il avait fait installer Steinberg et Blum à l'école normale avec une petite
antenne.
Antenne, oui, miroir pour détecter la radioastronomie. Alors, dans cette détection, il y avait beaucoup de parasites qui venaient de Paris. Alors, c'est à ce moment-là, moi, que j'ai eu l'idée de dire, ça serait mieux qu'on aille mettre des antennes au sud de Paris. Et là, on n'aurait pas, parce qu'on regardait quand même dans le sud, c'est-à-dire on regardait le soleil, et ça serait mieux. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'aller annoncer, et que j'ai fait ce qu'il fallait pour installer le radiotélescope d'Annecy. Et ce radiotélescope, au moment où j'ai installé, il était le plus grand du monde. Mais il était un peu bizarre comme radiotélescope. Et il y a Blum et Steinberg qui sont venus avec moi pour l'installer, et puis d'autres gens aussi. Madame Pic, qui était là, il y avait tant de gens. Et puis finalement, on a installé le Arsac aussi, qui était là. Et on a installé le radiotélescope de Nancy. Oui.
Il a été inauguré par Charles de Gaulle.
Eh bien voilà. À ce moment-là, il se trouve que je connaissais Charles de Gaulle. Et Charles de Gaulle, il m'avait fait envoyer aux États-Unis pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Parce qu'à ce moment-là, les Américains n'avaient jamais envoyé d'hommes dans l'espace, mais les Russes avaient envoyé un homme dans l'espace. Et De Gaulle m'a fait aller en Russie pour voir, m'a demandé d'aller en Russie pour voir comment ça se passait en Russie avec les lancements, quoi, puisque c'était eux qui étaient finalement plus forts que les Américains à ce moment-là. Les Américains, enfin, étaient forts, mais ils ne s'occupaient pas de ça. Donc j'étais en Russie pour voir ça, et je suis revenu voir De Gaulle, et je lui ai dit un peu que c'était des Russes qui faisaient ça, mais qu'ils n'étaient pas très bien vus par les Américains, parce que c'était des Juifs, par les Russes, parce que c'était des Juifs, et qui avaient une vie très bizarre en Russie. Ils vivaient dans des endroits... grand couloir, je vous rappelle toujours, quatrième étage d'une maison, grand truc, et il y avait des rideaux, puis il y avait des gens qui dormaient là, d'un côté, à droite, à gauche, enfin, vraiment invraisemblable. Hein, invraisemblable. Et après, je me suis aperçu que c'était effectivement parce que les Juifs n'avaient pas bien été, n'avaient pas été du tout bien acceptés par les Russes. Et bon. Mais il est venu raconter ça à De Gaulle et il était bien content.
Son projet, c'était de faire du spatial en France déjà.
Ben oui, du spatial en France, oui. Ah ben oui. Et donc, effectivement, moi, mais alors, pour faire ce spatial, j'ai aussi été en relation avec les États-Unis, parce que les États-Unis, eux, ils pouvaient lancer des satellites, tandis que les Russes ont lancé. Et les Russes avaient lancé le satellite Soyouz, qui avait emporté une femme dans l'espace, et qui était revenue sur Terre. Et ça, c'était quand même formidable. Alors que les Américains n'avaient rien fait. Et à ce moment-là, la situation était vraiment curieuse. Et je revenais raconter ça à De Gaulle. Et il a trouvé qu'il était vraiment, vraiment complètement stupéfait. Enfin, c'est comme ça que les choses se sont passées. Et à ce moment-là, De Gaulle a fait ce qu'il faut pour que les Russes soient... Enfin, qu'ils lançaient les hommes dans l'espace, soit en relation avec les Français, quoi. Et à ce moment-là qu'on a créé le centre spatial de Kourou, au nord de l'Amérique du Sud. On est allé installer là-bas un système pour lancer des satellites. Parce que avant ça, les satellites, on les lançait dans... On essayait de les lancer, on les lançait au sud de l'Algérie, en Afrique. Mais au sud de l'Algérie, on était très loin de l'équateur encore. Or, si on allait sur le bord de mer, sur le pays où il y avait l'océan Atlantique, là, eh bien, on était beaucoup plus près de l'équateur. Et donc, quand on lançait un satellite en l'air, comme la Terre tournait, cette rotation de la Terre entraînait le satellite et lui donner une forte impulsion. Et c'est ce que exploitaient les Russes, effectivement. Les Russes exploitaient ça, et c'est ce qui fait qu'ils avaient pu envoyer des satellites bien mieux que les Américains.
Ils n'avaient pas d'objection à accueillir un scientifique français en Russie ?
Ah, mais moi, je suis venu... C'était un peu délicat, mon voyage là-bas. C'était un peu délicat parce que, bon, De Gaulle m'a dit aller voir. Et quand je suis arrivé en Amérique, en Russie, j'ai vu mon... À ce moment-là, je m'occupais déjà de l'espace français quand même un peu. Enfin, moi, je n'étais pas... Et là, j'ai vu des gens à Moscou et je leur ai dit, bon, je voudrais voir comment ça fonctionne, ça. Alors, il y avait près de Moscou, il y avait des Russes qui s'occupaient de lancer. Il y avait tout un groupe, là. Mais j'ai mis 3 jours pour pouvoir prendre un... Parce que ces Russes étaient au sud de Moscou, un peu comme Orsay est au sud de Paris. pour aller de Paris à Orsay, bon, il y a un train qui y va, mais là-bas c'est pareil, il y a un train qui va de Moscou au sud de Moscou où étaient les lanceurs de satellites. Et j'ai eu 3 jours avant de pouvoir y aller, à trouver un billet pour aller à Moscou, dans le sud de Moscou. Et j'ai été voir les gens, il y avait un groupe qui faisait effectivement du lancement de satellites, c'est ce qu'on m'avait demandé de Gaulle d'aller voir, donc il fallait que j'aille voir. J'étais allé voir, et puis je me suis aperçu qu'ils étaient là, très, très contents, et ça marchait très bien. J'avais l'air de faire très, très bien, effectivement. Et puis, après, j'ai dû aller dans le nord de Moscou, parce qu'il y avait d'autres lanceurs de satellites au nord, dans la ville qui est au nord, je ne sais plus ce que c'est cette ville. Enfin bon. Alors, on m'a donné une charmante jeune femme pour m'accompagner de là-haut, pour me dire où je devais aller voir les gens qui lançaient le satellite. Alors là, il m'est arrivé une affaire bizarre, parce que j'ai aperçu que cette fille ne pouvait pas supporter les Juifs. Alors, je me suis dit, ah, quand même, c'est bizarre. Et je me suis aperçu à Moscou, où elle m'a montré les Juifs, que tous ces gars étaient Juifs aussi. Et alors, c'était les Juifs qui faisaient le lancement dans le nord, là-bas. Et c'est de là-haut qu'ils lançaient les satellites. Bon, et je suis revenu à Paris, j'ai raconté ça De Gaulle.
Vous l'avez rencontré personnellement? C'était des contacts directs?
Ah oui, j'ai eu des contacts directs avec eux, oui, ils ont été très sympathiques avec moi d'ailleurs. Mais j'ai compris qu'ils avaient de très mauvaises relations avec les Russes. Très mauvaises relations avec les Russes, ils vivaient dans un endroit tout à fait isolé, que ce soit à Moscou d'ailleurs, ou que ce soit là-bas à...
Pour ce qui concerne le début de la radioastronomie, oui. Donc après le choix de l'installation à Nancy, oui. Il y a une période importante qui voit l'Observatoire de Paris récupérer l'activité de radioastronomie. Et à ce moment-là, vous allez vous installer à l'Observatoire de Meudon.
Oui.
Il y a le choix du site de Nancy, qui est quand même un point oui. important.
Oui, alors quand je vous ai dit, quand je suis arrivé à Paris, l'école normale avec Rocard, il y avait Blum et Steinberg qui travaillaient avec un petit miroir qu'ils avaient monté dans le haut de l'école normale. Et il y avait énormément de parasites qui venaient de toutes les gens qui envoient de la radio à Paris. Donc, moi, j'avais pensé que c'était mieux d'installer un télescope au sud de Paris, parce qu'il fallait toujours regarder le nord, puisque dans un pôle nord, il faut regarder le nord de l'équateur. Et c'est comme ça que j'ai pensé que j'étais voir où on pourrait mettre un télescope, et je suis allé au sud de Paris, et j'ai vu que c'était là-bas où il y avait un endroit où visiblement on pouvait s'installer un télescope qui serait bien au sud de Paris et où on pourrait l'installer sur un grand terrain de façon à faire un grand télescope et qui serait le télescope de Nancy. Et ça, alors j'ai dû le discuter, j'ai été voir tous les gens d'Orléans. Orléans, ils n'étaient pas très comprenants. Ils ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça. Et puis tous les gens du côté de Nancy, pour pouvoir, parce qu'il fallait acheter un grand terrain pour faire un grand télescope. Si on voulait faire un grand télescope, il fallait acheter un très grand terrain. Et ce grand terrain, c'était à la fois Orléans les gens de...
Bourges, peut-être.
Bourges. Oui, c'est ça, Bourges. Et je devais aller là-bas pour voir si on pouvait acheter, parce qu'il fallait acheter des kilomètres carrés de terrain pour pouvoir mettre un truc comme ça, il fallait qu'il y ait au moins 3 km dans un sens et 3 km dans l'autre. Alors, ça, c'était pas commode d'acheter comme terrain. Mais enfin, finalement, j'ai pu acheter le terrain. Mais j'ai dû passer du temps à discuter avec tous ces gens d'un côté et de l'autre pour pouvoir l'acheter. Puis finalement, on a pu l'acheter. Et c'est à ce moment-là, mais c'est dans les années 50. Hein.
Vous aviez des crédits suffisants pour acheter un terrain et puis construire
acheter le télescope. J'avais des crédits suffisants. Oui, bon, c'était pas très cher, le terrain, vous savez, c'est pas... Mais justement, De Gaulle est venu voir ce truc-là. C'est-à-dire que, dans le fond, j'ai dû organiser les choses pour qu'on trouve l'argent pour le faire. Et De Gaulle m'a bien aidé pour ça. Pour ça, il me prenait au sérieux. Il m'a bien aidé. Et d'ailleurs, il est venu à Nancy. Et il a fait des photos de Nancy. Enfin, on a fait des photos de lui à Nancy. Et il est très content de venir voir Nancy parce que c'était... Enfin, ça m'a fait bien plaisir.
Il est venu avant l'inauguration ou simplement pour l'inauguration du Grand Radio Théâtre ?
On ne l'a pas inauguré. Non, il est venu avant l'inauguration, oui.
Suivre les travaux. Oui,
voir où ça en était, ce que c'était en fait, oui. Et j'ai des photos de lui là, quand il était là-bas. Mais ça m'a fait plaisir, quoi, c'est agréable. Et donc, grâce à De Gaulle, tout ça, ça a bien marché. Quoi. Ouais. Mais alors, ce qu'il y a, c'est qu'à Paris, pour aller à Nancy de Paris, c'est un peu long. Et les Parisiens, ils n'aiment pas du tout aller à Nancy. Et finalement, maintenant encore, on m'a dit que Nancy, ça marchait, qu'il y avait des gens qui étaient là. Mais que pratiquement tout ce qui est fait, c'est fait par des étrangers. C'est occupé par des étrangers. Il n'y a pas de Français. Très peu de Français qui vont encore là-bas. Quand même curieux, mais enfin, c'est comme ça.
Vous-même, vous alliez passer du temps à Nancy ? Vous y restiez ?
J'ai passé quelque temps, un moment, pour créer la chose, oui, parce que j'ai dû aller à Bourges, j'ai dû aller à Orléans, justement, pour voir les ministres là, et puis leur demander, et puis organiser tout ça, c'était pas évident. Et j'étais là-bas pas mal, oui. Mais ça s'est bien passé finalement.